Bienvenue, chers auditeurs. Aujourd'hui, je reçois Lisanne Lantier, éducatrice spécialisée de formation et coach familial, dotée d'une écoute exceptionnelle, d'une capacité à comprendre les situations familiales difficiles et de nous donner des trucs afin de les contrôler. On veut en savoir plus sur elle. Donc aujourd'hui, bonjour Lisanne.
Bonjour Mélanie.
Ça va bien?
Oui, merci toi-même.
Oui. En premier, qui es-tu, ma chère Lisanne?
Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation, comme tu l'as si bien mentionné. J'ai également suivi une formation de coach familial pour être vraiment spécialisée auprès des familles et des enfants, puisque je voulais faire de l'intervention auprès des familles.
Qu'est-ce qui est venu te chercher dans l'intervention des familles? Est-ce que tu as eu ça depuis que tu es tout jeune ou qu'est-ce qui est venu te chercher?
En fait, c'est que je regardais l'émission Super Nanny à la télévision, qui est vraiment de l'intervention au domicile des gens, des familles. Donc, c'est vraiment cette émission-là qui a fait le déclic pour moi de « Mon Dieu, j'aimerais donc faire ça, moi aussi, aller dans les foyers des gens, les aider directement dans leur cocon familial, finalement. » Donc, j'ai cherché, puis finalement, j'ai vu qu'il y avait une école de coaching familial. Donc, j'étais allée chercher cette formation-là parmi les autres aussi. Là, j'allais en chercher d'autres aussi par après, mais c'est celle-là qui est vraiment la principale pour…
École pour devenir coach.
Ouais.
Puis, à l'école, dans le fond, qu'est-ce qu'ils t'apprennent exactement en formation?
Dans la formation de coach familial, c'est vraiment l'approche auprès des familles, comment bien comprendre les dynamiques familiales, chaque enfant, chaque parent, comment ils sont dans leurs interventions, dans leur niveau de responsabilité, finalement.
Puis au niveau sûrement de la psychologie de l'enfant un petit peu, est-ce qu'on touche un peu comment que l'enfant réagit versus à certaines situations?
Oui, tout à fait, on touche à ça aussi. Évidemment, il faut préalablement être quelqu'un qui travaille déjà auprès de cette clientèle-là, soit travailleur social, psychologue, enseignant. Il faut être dans le domaine un peu quand même là, avant de faire cette formation-là.
Toi, ton parcours dans le fond académique, tu as suivi la formation de coach familial, mais avant, est-ce que tu étais spécialisée en quelque chose?
Oui, ben moi, j'avais fait mon cours d'éducation spécialisée. Puis après, j'ai décidé de pousser plus loin. Puis je voulais vraiment ça, c'est la clientèle avec laquelle je voulais vraiment me développer, que je savais que j'étais vraiment heureuse de travailler dans avec cette clientèle-là, finalement. Donc, c'est pour ça que je suis allée me spécialiser. Puis aussi, j'étais allée chercher d'autres formations là, aussi par après. Donc, sur les troubles sensoriels, sur l'attachement, sur le cerveau et le développement, brain gym, comment bien comprendre les crises, utiliser l'imaginaire, une formation de base en programmation neurolinguistique, sur l'attachement à l'opposition, bref, sur plein de choses que les enfants peuvent vivre pour être vraiment mieux outillés, là.
Plein de facettes.
Ouais.
Donc, ça ici, au niveau des formations, au niveau des différents points, ça peut t'apporter comme des trucs ou pour cerner le problème au niveau de ça?
Pour mieux comprendre qu'est-ce que la famille vit, qu'est-ce que l'enfant vit. Puis, parfois, on voit un comportement, on se dit « bon, il veut pas m'écouter », mais finalement, c'est peut-être juste quelque chose au niveau sensoriel qui fait que l'enfant réagit comme ça puis qu'on n'a pas pensé. Je veux dire qu'un parent ne penserait pas nécessairement, mais en ayant tout plein de ressources comme ça, de bagages que j'allais me chercher, ben à ce moment-là, c'est plus facile de faire une espèce d'appréciation de la situation pour dire ben c'est peut-être ça, mais c'est peut-être ça aussi. Tu sais, on va regarder.
Vous cernez le problème, puis après ça, l'analyser pour après ça, trouver les solutions.
Oui, c'est ça. Des fois, c'est à tâtons, on essaie erreur, puis des fois, on sait que c'est clairement ça, fait qu'on met d'une manière ou d'une autre, on met toujours des outils en place, des méthodes d'intervention, puis on réévalue avec le temps pour voir si ça fonctionne. Si oui, tant mieux, sinon, on essaie autre chose.
Quel type de problématique qu'on peut avoir qu'un parent vienne te voir pour dire « moi, ça fonctionne pas, mon enfant, il m'écoute pas ».
Effectivement, comme tu l'as si bien dit, ça revient souvent à « il m'écoute pas ». J'essaie de faire la routine du matin, ça marche pas. J'essaie de faire les devoirs, il veut rien savoir. J'essaie de le coucher le soir, ça marche pas. Il se relève 15 millions de fois à table. Ça revient souvent, c'est plein de problématiques différentes, mais ça revient souvent à ça. J'ai dit quelque chose et il m'écoute pas.
Comment tu fais? Tu t'assois avec la famille, dans le fond, les séances?
Les séances, c'est toujours à domicile. Donc, c'est bien parce qu'en même temps, moi, je vois dans l'environnement dans lequel la famille est. Donc, déjà là, j'ai des points de repère que je n'aurais pas dans un bureau. Donc, l'observation de la domicile, c'est très, 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 ça a beaucoup de valeur. Et puis, on s'assoit, les parents. Ça dépend aussi l'enfant a quel âge. Donc, si l'enfant a 2-3 ans versus l'enfant a 10-12 ans, c'est différent, là, c'est ça, là. On va peut-être avoir des discussions qu'on n'aura pas devant un enfant de 10 ans qu'on pourrait avoir devant un enfant de 3 ans, que ça ne change pas grand-chose. Donc, on fait ça à domicile, puis on s'assoit ensemble, on discute de la situation en long, en large, on décortique vos interventions, vous faites quoi, les réactions c'est quoi vos routines. On va vraiment dans le détail. Les premières rencontres, ça peut prendre entre 1h30 et 3h, parce que moi, je les connais pas, les parents. Donc, faut vraiment bien se comprendre, finalement, pour que je puisse vraiment bien les aider dans la bonne direction.
Cerner aussi un peu le type de personne.
Oui, tout à fait, parce que chaque parent est différent, a des émotions l'un à l'autre qui sont différentes. Le papa réagit d'une certaine manière, la maman d'une certaine manière. Donc, il faut s'entendre là-dessus. Qu'est-ce qui est acceptable pour un, qu'est-ce qui n'est pas acceptable pour l'autre? Des fois, ça aussi, l'enfant est perdu là-dedans parce que les deux parents ont des attentes différentes. Donc, il faut se rasseoir puis voir, bon, mais qu'est-ce que vous acceptez ensemble, en équipe?
Ben oui. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton domaine?
C'est vraiment... Pourquoi je fais ça, là? C'est vraiment pour voir les familles s'épanouir, être heureux ensemble, utiliser des outils, puis ça a fonctionné, c'est réglé, on n'a presque plus de crise, il fait ses routines, elle mange à table, bref, que de voir une situation problématique, que ça devienne finalement réglé et harmonieux.
Les parents doivent t'aimer par la suite. Tu dois avoir des super bons commentaires.
Oui, les gens sont contents que les crises soient plus là. On peut pas demander à un enfant de pas faire de crise parce que c'est pas réaliste. C'est un être humain comme un autre. Les enfants ont besoin de faire des crises pour leur bon développement, mais en moins grande quantité peut-être et moins longtemps, et que l'enfant se sente mieux aussi, parce qu'un enfant tout le temps en crise, c'est un enfant qui est pas nécessairement bien, là. Donc, c'est pour le bonheur de tous finalement, et des parents, mais aussi de l'enfant.
Ton approche en tant que telle au niveau des parents, là tu dis tu vas dans l'environnement de la famille, puis par la suite, après ça, tu établis selon un protocole, selon la problématique?
C'est selon la problématique, je dirais, parce que si c'est pour le coucher, ben ça va être différentes méthodes. Si c'est pour les crises, ça va être différentes méthodes. Donc, mais ce qui revient tout le temps, c'est que c'est à la maison. Donc, les gens n'ont pas à se déplacer. Les gens... Il bénéficie d'un service qui est vraiment clé en main, si je peux dire, parce que le coach se déplace. Le service est que à la maison. Donc ça, c'est le fun, parce que des fois, si on a un horaire serré, on travaille beaucoup, on a l'enfant a des... Il y en a qui font du soccer 3 fois par semaine. Ouais. C'est dur de trouver un moment pour aller dans un bureau.
Les qualités vraiment que tu as en tant que coach, vraiment les qualités importantes qu'il faut pour être coach?
C'est sûr, la première, c'est d'être calme. Parce que si un intervenant énervé, stressé, c'est pas nécessairement bénéfique pour le client.
Non.
Donc, je pense d'être calme, c'est une des premières choses. Aussi, l'écoute. Faut savoir bien entendre, parce que il y a écouter, mais il y a écouter efficacement. Bien décoder ce que le client nous dit entre deux lignes, le sous-entendu, c'est... Il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans aussi, là. Donc, les connaissances. Je pense que un intervenant bien outillé, avec beaucoup de connaissances et d'expérience, je pense que ça vaut son pesant d'or aussi.
Dans ta vie personnelle, qu'est-ce que ça t'a apporté, ce métier-là?
Je gravite autour de plusieurs enfants, même si je ne les vois pas tous les jours nécessairement, mais d'avoir des petits cocos là, comme ça en rencontre, c'est vraiment... c'est splendide. Puis de les voir évoluer aussi, parce que des fois, ils sont pleins d'émotions, puis avec le temps, on voit que... Ouf, ça relâche, puis ils sont plus capables de nommer ce qu'ils ressentent, puis de plus nommer, ça, j'aime pas ça. Puis donc, de voir évoluer autant les parents que les enfants, là, c'est vraiment, c'est de l'or pour moi, vraiment.
Les enfants doivent, tu sais, développer un lien avec toi?
Oui, j'essaie de, c'est sûr, ça arrive, là. J'essaie, par contre, que ça reste vraiment le parent qui développe vraiment cette facilité-là d'intervention, parce que moi, je suis là de façon ponctuelle. Des fois, c'est aux semaines, mais à un moment donné, ça s'estompe. Là, ça va aux 3 semaines, un mois, puis après, on se voit plus des fois parce que c'est réglé. Moi, j'essaie vraiment de le donner le plus possible aux parents. C'est sûr, des fois, je fais des choses en rencontre avec les enfants pour développer certaines habiletés, mais c'est très ponctuel parce que moi, je pense vraiment que c'est le parent qui doit être le maître de tout ça. Parce que moi, quand je quitte la rencontre après 2 heures, là, c'est le parent qui doit s'organiser avec tout ça, là. Donc, moi, mon travail, c'est vraiment, je dirais, à 95%, là, c'est d'outiller le parent parce que c'est lui qui vit au quotidien avec l'enfant.
C'est pas de remplacer le parent, dans le fond, tu lui donnes les outils pour réussir.
Oui, c'est vraiment mon but, oui.
Quel conseil un peu de base que tu pourrais nous apporter aux parents afin d'éviter des crises?
Le premier conseil, puis c'est, je pense que c'est celui qui est le plus dur à travailler, mais c'est celui qui a le plus d'impact, selon moi, c'est l'état dans lequel le parent est. Si le parent essaie de régler, de gérer une crise et que lui est anxieux au même moment, que lui s'énerve et que là, la tension monte des deux côtés, c'est difficile à ramener. Si le parent est capable de rester neutre, zen à la limite, et c'est là qu'est la difficulté parce que dans les crises, on voit toutes sortes de choses. Des fois, les parents se font frapper, des fois, les enfants lancent des choses, ils crient, ils hurlent, ils font toutes sortes d'affaires, OK, dans les crises. Puis en plus, selon l'âge, là, plus que l'enfant vieillit, plus les crises sont importantes puis peuvent vraiment faire des dommages. C'est vraiment mon premier conseil dans les crises, c'est de maîtriser nos réactions pour rester neutre parce que après ça, c'est l'effet d'escalade. Je monte d'un cran, il monte d'un cran, je monte d'un cran. Donc, c'est ça.
Au niveau, justement, des situations de séparation, est-ce que ça doit être quand même plus difficile quand on a les deux parents se séparent? Est-ce que tu interviens avec les deux parents à ce moment-là?
C'est sûr que moi, je suis un service volontaire. C'est du service privé. Donc, moi, je vais selon la demande des gens. Si les deux parents sont prêts à travailler sur la séparation, c'est génial. Des fois, c'est un des deux parents qui veut, l'autre, il veut pas, puis pour des raisons X, Y, puis c'est correct. À ce moment-là, ben moi, je travaille avec la personne qui a besoin de service, finalement, qui a besoin de travailler dépendamment. Ça peut être plein de choses, là. Mes émotions, c'est peut-être que l'enfant fait plus de crises au niveau de la séparation, il est en réaction.
C'est sûr qu'en même temps, tu peux établir ça avec le parent.
Oui. Puis de faire bien comprendre ces réactions-là. Des fois, les parents, nécessairement, puis que ce soit en cas de séparation ou pas, un parent ne comprend pas toujours qu'est-ce qui se cache derrière ces comportements-là. Donc, de faire un portrait de pourquoi ces comportements-là. On appelle ça la fonction du comportement. À quoi il sert, ce comportement-là? Et ça, c'est aussi bon chez les enfants, chez les ados, chez les adultes. Un comportement sert à quelque chose. Il répond à un besoin, il répond à X, Y. Donc, de faire comprendre ces comportements-là aux parents. Après ça, déjà, quand on comprend, on est moins en réaction.
Merci beaucoup. Donc, on va aller à une petite pause musicale. De retour avec la merveilleuse Lisanne, coach familial et expérimentée en situation problématique de famille. Rebonjour, Lisanne. Donc, on continue avec mes incontournables questions. C'est quoi qui est vraiment plus problématique?
Le premier élément incontournable, je dirais, c'est vraiment l'attitude, un peu comme je disais tantôt. L'attitude du parent qui est en action plutôt que d'être en réaction. D'être en réaction, c'est de crier, de lever le ton, de menacer de conséquences illogiques. Bon, bref, c'est d'être plus en contrôle de ce qu'on dit puis de ce qu'on pense.
T'as-tu des trucs pour être en contrôle?
Ben, c'est vraiment, ça dépend de chacun. Hein. Quand je travaille avec une famille, les trucs pour le papa seront pas nécessairement les mêmes pour la maman. Donc, il y en a des fois, c'est d'aller faire le tour du bloc puis de revenir. Il y en a, ça va être d'aller faire des respirations dans la chambre. Il y en a que ça va être de prendre le sac magique. Il y en a que ça va être de mettre leur écouteur, écouter de la musique. Donc, faut vraiment trouver ce qui colle à nous puis qu'est-ce qui nous aide finalement. On peut se poser la question, dans la vie en général, quand je vis une frustration, qu'est-ce qui m'aide à revenir, à maîtriser mes émotions puis de pas être en réaction? Puis si on fait ça au travail, ben peut-être c'est bon aussi à la maison.
Y en a-tu d'autres, must, au niveau de l'éducation?
Oui, il y a la constance. Je sais que les parents l'entendent souvent, mais c'est vrai. C'est que des fois, les parents m'appellent et disent « J'ai tout essayé, mais t'as tout essayé une journée. » Faut se donner du temps, c'est long, changer un comportement. Des fois, non. Des fois, ça prend 3 jours, c'est réglé, mais des fois, ça prend 3 semaines. Puis si on se donne juste 2 jours, ben c'est sûr que l'on s'épuise à essayer tout plein d'affaires. On épuise notre coffre à outils, puis on pense qu'il n'y a rien qui marche, mais on ne s'est pas donné le temps.
Tu nous dirais, est-ce qu'il y a un maximum de répétitions, des fois, à dire des consignes?
Oui, là, on rentre vraiment dans une technique bien précise qu'on appelle le 1-2-3.
Donc, le 1-2-3, finalement, c'est après 3 fois, tu donnes la conséquence si ça n'a pas été effectué.
En fait, oui, c'est même après 2, parce que là, on le dit une fois, on donne un délai à l'enfant pour qu'il comprenne bien la consigne, parce qu'on sait que le cerveau de l'enfant n'est pas développé de la même manière que l'adulte, il n'est pas encore tout développé, finalement. Donc, le temps qu'il assimile la consigne, c'est pas le même temps qu'un adulte. Donc, des fois, ça, on l'oublie. Le cerveau n'est pas aussi vite que le nôtre. Donc, après ça, au numéro 2, on le redit. Et on annonce qu'est-ce qui va suivre si l'enfant choisit d'écouter ou pas d'écouter.
Fait que c'est de là aussi vient la constance, c'est-à-dire qu'il faut toujours être constante.
Ouais. Si on répète, une journée on répète 15 fois, l'autre journée on répète 2 fois, l'autre journée on répète 7 fois, l'enfant, lui, il sait plus, là. Il écoute après combien de fois. Mais si c'est qu'après la deuxième fois, il y a toujours un choix qui s'offre, puis qu'il y a numéro 3, mais on répète plus, on agit. Donc, si l'enfant a écouté, tant mieux, il n'y a pas de conséquences. Mais si l'enfant a décidé de ne pas écouter notre consigne, bien, on répète pas, là. On a déjà dit 2 fois, on s'est assuré qu'il nous a entendu, qu'il nous a bien compris. Bien, là, on agit. Si on a dit qu'on retirait tel jouet parce qu'il fallait aller manger, puis là, il jouait, bien, on enlève le jouet.
Puis au niveau de la constance, on a l'état aussi du parent. C'est quoi le troisième qu'on prend un incontournable, là?
C'est un peu les connaissances quand même, parce que si on se base juste sur l'éducation qu'on a eue, peut-être c'est bon, mais peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être faites autrement aussi. Donc, c'est d'aller un peu chercher des nouvelles connaissances, peut-être sur c'est quoi les méthodes actuelles, les méthodes bienveillantes surtout, hein, puis les méthodes positives, parce qu'il y a toutes sortes de méthodes de discipline, il y a toutes sortes de méthodes pour se faire écouter, mais il y en a qui sont à faire, il y en a qui sont un peu à proscrire.
Y a-t-il des parents qui t'amènent des situations qui sont allés déjà vérifier sur nos sites Internet ou dans les livres, puis ils t'apportent ça comme outil, puis que tu peux comme gérer un peu avec ça? Comment que tu réagis?
C'est déjà arrivé, mais c'est dans les cas où que les gens avaient tout essayé 2 jours. Donc, on reprend, oui, ça, c'est une bonne idée, c'est juste qu'il faut le maintenir. Donc, oui, tout à fait. Des fois, les gens ont des bonnes informations déjà, c'est juste de comment gérer les émotions à travers ça. C'est surtout ça le défi, hein? Les enfants vivent des grosses émotions des fois, les parents aussi, puis pas juste par rapport à la famille, au travail, ça brasse peut-être. Et bon, bref, donc tout le monde a à gérer les émotions là-dedans, puis si on a des bons outils, tant mieux, mais il faut bien s'en servir.
Si on parle de prévention, tu sais, dans les cas de crise, tu interviens, mais si on parle, mettons, pour prévenir les crises, chez les enfants ou chez les ados, y a-t-il une différence?
Oui, c'est sûr que c'est 2 stades complètement différents. L'enfant, lui, il va peut-être plus facilement dire... nous montrer qu'il est pas bien ou qu'il va pleurer peut-être plus facilement. Il va peut-être pas nécessairement nommer. J'ai eu une grosse chicane aujourd'hui avec un ami, mais on va voir qu'il sera pas nécessairement bien. On va plus le voir. Tandis qu'un ado est plus capable de le cacher, de garder ça en dedans. Mais dans les 2 cas, c'est vraiment de développer une relation avec l'enfant. Tu sais, si on est tout le temps dans faire, donc fais ton lit, fais ci, fais ça, fais tes devoirs, on n'a pas le temps de prendre le temps ensemble, de s'amuser, de lire un livre avant le coucher. Bref, si on est tout le temps dans faire, mais on n'a pas de temps ensemble pour juste faire un jeu ou quoi que ce soit, bien, c'est sûr qu'après ça, quand on rentre dans des discussions, dis-moi ce qui se passe dans ta vie, mais si on a pas eu de temps nécessairement dans les dernières années de prendre ce temps-là. Peut-être c'est un petit peu plus difficile pour un ado de s'ouvrir, là.
Si on parle des grands-parents, des fois, ça peut être les grands-parents qui élèvent les enfants. Puis même des fois, quand on veut les faire garder aussi, on a le lien qui est différent. Est-ce qu'il y a une intervention qui est différente?
En fait, les grands-parents, des fois, c'est des bons alliés aux parents. Ils suivent vraiment les méthodes que les parents leur demandent. Et ça, c'est tout à leur honneur, honnêtement. Par contre, des fois, c'est plus le fun, plus facile pour eux de dire « Ah, oh, ben oui, je vais y en donner,
oui,
c'est pas
ça.
Grave. » Puis des fois, c'est des choses que les parents me disent dans leur rencontre, tu sais, ben mes parents ou ses parents, ils nous mettent un peu des bâtons dans les roues parce qu'ils nous disent qu'on devrait pas faire ça comme ça. Donc, parfois, ça peut arriver qu'on fasse des rencontres, tout le monde ensemble, les parents, les grands-parents, pour expliquer parce que des fois, les grands-parents comprennent pas pourquoi c'est conseillé. Donc, on peut rencontrer les grands-parents aussi pour leur dire, bien, il y a ça à cause de ça, puis tel développement, puis le cerveau, puis bon, on explique un peu pourquoi, puis généralement, les gens, après avoir compris, tu sais. Mais c'est un peu le même principe quand on demande quelque chose à un enfant puis qu'il comprend pas pourquoi, des fois, il va s'opposer parce que ça fait pas de sens pour lui, tu sais. Fait que c'est un peu bon pour tout le monde.
Est-ce que tu as eu des situations où ce que les parents ils ont comme abandonné, ils ont dit là non, je vais le donner à papy, mamie, là, c'est eux autres qui vont gérer cette problématique-là?
Non, ça m'est pas arrivé. Par contre, on peut utiliser les grands-parents comme moyen de repère et de repos. Parce que des fois, quand les parents sont trop exténués de la situation, mais on peut utiliser les ressources proches, comme les grands-parents, les tantes, les oncles, les amis, pour se donner un répit aussi, parce que peut-être on y réfléchit pas ou on se donne pas le droit à ça, mais si on est exténué en tant que parent, on peut pas être à notre meilleur dans nos interventions tout le temps, 7 jours sur 7. Donc, c'est le fun d'utiliser aussi les grands-parents puis notre réseau autour pour se donner un temps si on en a besoin.
Tu vois-tu une augmentation ou une diminution du nombre de familles qui vivent des situations de crise?
En fait, les services privés de coaching familial sont de plus en plus connus. Donc, c'est sûr que plus on est connu, plus on a de demandes. Donc, je dirais que c'est en évolution, mais est-ce qu'on a plus de demandes? Je pense qu'on est un beau complémentaire au service public parce qu'il y a des gens qui ont des 2 mois, 6 mois d'attente pour des services puis qui ont des sous pour se payer ça. Donc, je pense qu'on peut aider au niveau des listes d'attente pour les gens qui peuvent se le permettre.
En moyenne, un coach familial, c'est quand même abordable pour les familles.
Mais c'est un processus qui est quand même rapide parce que normalement, les gens, quand ils viennent chercher un service comme ça, c'est qu'ils sont prêts à changer. Ils ont des objectifs en tête, ils sont prêts à mettre des choses en place. Donc, les statistiques là, du coaching familial, c'est en 3 et 7 rencontres. Donc, c'est quand même court. C'est sûr que, bon, faut être prêt. Tu sais, si on n'est pas sûr, puis tout ça, ben ça peut être plus long. Puis si l'enfant a une problématique, par exemple, qu'il est autiste. Donc, des fois, ça peut peut-être être un petit peu plus long, mais quand les gens sont prêts, moi, ça m'est arrivé des fois de rencontrer une fois, une rencontre, c'est réglé.
Les enfants autistes ou ayant des diagnostics un peu de TDAH, comment interviens-tu? C'est-tu différent?
En fait, je me répète là, mais c'est vraiment l'attitude du parent. Parce que quand un enfant a un TDAH, par exemple, avec impulsivité, agressivité, c'est beaucoup, là. C'est demandant pour un parent, là. Donc, des fois, c'est que le parent est juste exténué de la situation. Donc, oui, il y a une problématique de plus qu'un enfant qui n'a pas de TDAH. Par contre, souvent, les interventions pour un enfant avec TDAH ou pas peuvent se ressembler quand même parce que peut-être qu'on va juste mettre un outil de plus, on va mettre la routine, mais on va l'afficher avec des pictogrammes, par exemple, pour que l'enfant se rappelle qu'il y a une routine à suivre puis qu'il l'a avec lui pas loin pour voir, bon, je suis rendu où dans ma routine? Ah oui, c'est vrai, je suis rendu là. Donc oui, des fois, il y a des petits plus qu'on peut rajouter là, dans nos interventions quand on est enfant avec un diagnostic. Par contre, notre enfant reste notre enfant, c'est les parents qui les connaissent le plus. C'est eux l'expert de leur enfant. Donc, souvent, c'est même eux qui vont dire « Ah, ben, je pense que je préfère ça. » Ben, bonne idée. T'as bien raison. Je pense que ça va aider.
Tu agis un peu comme un thérapeute pour le parent aussi.
Tout ce qui est coach, hein, c'est pas encore défini. Il n'y a rien de légalement de fait pour ça. Donc, j'utiliserai pas le mot thérapeute parce qu'on peut pas. Mais bref, c'est un bel accompagnement qu'un parent se permet quand il utilise les services de coaching familial.
Au niveau des problématiques, tu vois-tu que l'enfant est plus agressif en TDAH?
Ça peut arriver parce qu'un enfant qui a un TDAH peut être plus agressif ou ne pas l'être. Ça dépend de chacun, finalement. Donc, un enfant qui a un TDAH avec impulsivité et agressivité, c'est un défi de plus, là.
Je voulais dire aussi en même temps, en Estrie, si on regarde au niveau des maisons de la famille, tu peux-tu nous en parler un peu, c'est quoi? Parce que j'entends dire, bon, maison de la famille, c'est disponible pour tous les gens. C'est quoi exactement une maison de la famille?
Bien, une maison de la famille, je vais parler de celle de Sherbrooke, c'est vraiment, ça ressemble à une maison, pour celle de Sherbrooke en tout cas. C'est vraiment, il y a toutes sortes de services là-dedans. Il y a des cours de groupe qui sont offerts, des ateliers de groupe, il y a des conférences, il y a une halte garderie, pour les parents qui veulent se donner qui ont besoin d'un temps de garde pour une limite de temps, là. Donc, finalement, c'est de favoriser le bien-être psychosocial des couples et des familles. Donc, c'est pas obligé d'avoir des enfants pour avoir les services de la maison de la famille. Et pour être membre, c'est à peu près 20 $ par année. C'est très accessible. Comme organisme, puis il y a toutes sortes d'intervenants là, qui sont là.
Ça peut t'aider déjà à la naissance. Un enfant, bon, il y a un petit problème ou quoi que ce soit, je ne sais pas comment agir, je peux aller à la maison de la famille avec mon enfant.
Oui.
Lisanne, on peut aller te consulter sur quoi exactement?
Oui, il y a mon site web, le www.objectif-famille.com. Donc, Objectif Famille, qui est le nom de ma compagnie. J'ai des services de coaching familial, évidemment, comme on a parlé. J'ai également un service de conférences et d'ateliers pour les parents. Donc, les parents qui aimeraient en savoir un petit peu plus, par exemple, sur le stress, les impacts, j'ai une conférence là-dessus. Il y a la programmation qui est sur mon site web. J'ai également un service pour les milieux de garde. Donc, j'envoie des éducatrices spécialisées dans les milieux de garde pour travailler avec les enfants à besoins particuliers.
Merci, Lisanne Lantier, de ta participation. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ça me fait vraiment plaisir. Merci de m'avoir reçue ici aujourd'hui.
Nous remercions Normand Godbout à la technique et au montage, et c'était Mélanie Adam qui vous dit à la semaine prochaine.